Vous écoutez le Libre Journal de Philippe Lejeune, diffusé en direct, mardi 1er février 2005, de midi à 13h30, en différé l'après-midi de 16h à 17h30, et mercredi 2 dans la nuit de minuit à 1h30. Ce Libre Journal est réalisé par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Je salue courtoisement tous ceux qui, à l'annonce de cette émission, ne tournent pas de façon avec quelque impatience le bouton en disant encore cette émission ennuyeuse. Ceux qui continuent à écouter sont par conséquent, nous donnent un témoignage d'amitié auquel nous sommes sensibles. Eh bien, nous les convions à se joindre à notre conversation qui a lieu, comme vous savez, deux fois tous les mois. Notre conversation, vous l'avez constaté, et ceux qui depuis 14 ans, je crois bientôt, écoutent cette émission le savent, vous pouvez nous poser des questions, puisque nous efforçons d'y répondre, mais également nous vous posons des questions, et vous y répondez généralement remarquablement, et quand nous avons un mot dont l'acception nous échappe, ou quand nous voulons une date plus précise, eh bien, très souvent, vous nous dépannez et vous trouvez la solution de la difficulté qui se présente à nous. Nous fêtons aujourd'hui, nous sommes la quatrième semaine du temps ordinaire.
Ceux qui ont Internet peuvent m'écrire directement à olivier@mariedenazareth.com. Donc l'adresse c'est olivier@mariedenazareth.com.
Olivier et Marie de Nazareth, somme toute, c'est peut-être un peu prétentieux, mais enfin, on peut tout imaginer.
Chacun met son prénom, voilà.
Que chaque fois que vous me prévenez à l'avance, je vous donne le temps d'antenne nécessaire. Aujourd'hui, vous êtes venu à l'improviste pour signaler justement cet événement important. Et vous comprenez que je ne peux pas vous donner tout le temps que je
bien
viens
sûr,
vous donner,
bien sûr,
mais
bien
vous êtes toujours invité ici. Merci.
C'est très gentil, merci.
Vous restez avec nous.
Oui.
Si vous pouvez prendre part au débat, ça me ferait très plaisir. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Geneviève Dorman, l'écrivain que pas la peine de présenter, Daniel Fuchs, qui est ce peintre qu'on ne présente pas non plus à ceux qui aiment la peinture, et Valentin Scarlatescu, qui est à la fois un dessinateur, un restaurateur, et qui a cette vision sur la peinture et sur l'art tellement étrangère à l'éducation actuelle des beaux-arts, où il n'est plus question naturellement du moindre métier, ni de la moindre discipline qui impliquerait un ordre, à coup sûr stérilisant et empêchant le génie que tout homme possède en évidence et en grande quantité. Tous les enfants sont géniaux, vous le savez, et bien entendu, il suffit de ne pas être contrarié par l'éducation, ce qui fait qu'en général, comme l'éducation brille par son absence, il n'y aura bientôt plus que des génies en France. Nous pouvons tous en réjouir. Geneviève Dorman a étudié la question et elle va surtout nous montrer comment la perversité et la perversion s'opèrent par le livre. Et c'est pour ça qu'on leur apprend encore un petit peu à lire. Ils lisent à peine, mais enfin, tout de même, c'est indispensable, par le livre. Et comment on opère très tôt, en amont, toujours en amont, pour que les résultats soient catastrophiques. Alors je donne la parole à Geneviève Dorman. Et avant, puisque elle m'a dit que ce texte irait très bien pour introduire son émission, un texte d'un certain Platon, je ne sais pas, un auditeur nous dira peut-être qui c'est, 400 ans avant Jésus-Christ. Enfin, ça ne fait rien, mais ce qu'il dit est intéressant. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus de Dieu l'autorité de rien et de personne, alors, c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Geneviève Dorman, parlez-nous du début de la tyrannie en France.
Ah ben le début, ça fait longtemps que ça a commencé. Mais par exemple, je suis en train d'écrire un pamphlet contre les fossoyeurs du livre parce que je crains que bientôt personne ne sache plus lire et que donc les livres disparaissent. Enfin ça, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est que dans la documentation que je suis en train de faire, je découvre, il y a quelque temps dans le Figaro, une page entière sur le salon des livres pour les adolescents à Montreuil, et qui était mis en novembre 2003 sous le signe de l'amour. C'est plutôt une bonne chose, bon, on en parle peu.
Un peu banal, mais enfin...
Non, parce que moi j'aime mieux qu'on parle d'amour plutôt qu'on parle... De beaucoup d'autres choses.
Oui.
Et alors je vois ça, alors on recommande des livres pour... Il y a des intertitres, le règne du bisou, l'humour toujours. Et je vois pour les 13 à 16 ans, le temps des questions. Alors le temps des questions, ça a rapport au rapport sexuel ou ce qu'en pensent les enfants. Alors d'abord, on cite un livre qui s'appelle Le guide du zizi sexuel,
oui.
Qui est quand même un pléonasme.
Oui.
Le zizi sexuel, c'est oui. Quand même étrange.
Oui.
Et qui est fait par cet homme qui s'appelle Zep, qui est en train de devenir milliardaire en faisant des bandes dessinées qui s'appellent Titeuf.
C'est un joli nom, en tout cas.
Quoi,
le nom qu'il a pris.
Zep, oui. Et alors, c'est absolument incroyable, parce que d'abord, il ne sait pas dessiner. C'est horrible. Titeuf en question, qui est le héros de tout ça, a l'air d'un petit vieux effroyable. Et les parents, et c'est bourré de gros mots et de grossièreté. Mais les enfants se traitent de PD. D'abord, c'est interdit maintenant par la loi.
Oui.
Ils se traitent de pu du cul. Mais alors, et on voit des parents bourgeois bien sous tourap qui vont acheter ça dans les boutiques, alors que bon, il y a peut-être un autre moyen. De toute façon, les enfants se débrouillent toujours. Pour se renseigner.
Bon. On se demande comment la natalité a pu perdurer au monde, puisqu'au fond, il y a encore quelques hommes, et même ils se reproduisent, avant justement qu'on ait ces éclairages merveilleux qui permettent aux jeunes gens de savoir comment ça se passe.
Oui, mais même aux
enfants,
c'est
un grand problème. C'est admirable. Comment sommes-nous là? Voilà, c'est la grande question, puisque normalement, nos parents et nos grands-parents n'ont pas eu d'éducation sexuelle. Comment ont-ils fait? C'est un grand problème.
Mais alors le problème d'aujourd'hui, c'est ce titre qui est cité par Le Figaro et qui s'appelle « Dans la collection Hydrogène du Seuil et de la Martinière », un livre qui s'appelle « L'homosexualité à l'adolescence ». Et c'est fait pour les enfants de 13 à 16 ans.
On rêve.
Alors bon, et tout ça est vendu dans une librairie Bon Chic Bon Genre qui est à côté de l'hôtel Lutetia rue de Sèvres, à côté d'un marchand de chocolat, j'ai oublié le nom mais ça c'est normal. Et qui je suis allé l'acheter quand même pour voir ce qu'il y avait dedans. Alors c'est titré, d'abord c'est écrit par une dame dont on sait pas qui elle est. Il y a aucune mention de est-ce que c'est un prof, est-ce que c'est une psychopédagogo comme disait monsieur Allais.
C'est un homme. Pour prendre un nom de ça.
J'en sais rien, mais on nous explique en sous-titre que c'est comment parvenir à surmonter ses doutes, ses craintes, mais aussi les préjugés et le regard des autres. Quand on se sent devenir homosexuel entre 13 et 16 ans.
Quelquefois on a honte, c'est épouvantable.
Eh ben voilà, c'est ce qu'elle dit, faut surtout pas avoir honte. Parce que la honte c'est très mauvais.
Oh, c'est très mauvais.
Il faut pas avoir peur de ce que pensent les gens.
Ça donne des boutons.
De toute façon, pour se rassurer, on se dit qu'il y a de plus en plus d'homosexualité en France.
Oui.
Qu'il y en a plus dans les villes que dans les campagnes.
Et pratiquement tous les grands hommes étaient homosexuels.
Bon, il y a des milliers en France, comme dans tous les pays du monde, il y a des milliers et des milliers de gays et de lesbiennes. Puis il y en a qui n'ont pas honte. Alors on cite des gens très connus qu'il faut savoir pour qui ont fait leur outing, comme on dit, qui sont sortis du placard, c'est-à-dire qui ont avoué leur préférence, comme Monsieur Delanoë.
Oui,
comme
oui.
Amélie Mauresmo,
oui, oui.
Comme un autre aussi, un acteur très connu.
Ça s'arrêtera là, ça va encore, mais enfin, on recommence avec Léonard de Vinci, avec Michel-Ange, avec Ronsard, avec n'importe qui, tout le monde est soupçonné d'homosexualité.
Oui, non, mais on dit aux enfants vraiment ceux qui voient à la télé, là, vous voyez.
Oui, c'est ça, ceux qui ont un pouvoir.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce livre, Contre les préjugés? Ah oui, si penser être homo éveille tant de craintes a priori, c'est entre autres parce que le collège, le lycée ne fait rien pour les soulager. Les programmes d'histoire, de français, de philosophie, de sciences de la vie se gardent bien d'en parler.
Extraordinaire.
Il y a quelques années, une circulaire de l'Éducation nationale sur les insultes à éliminer mentionnait le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, mais passait sous silence l'injure homophobe.
Ah oui, ça va être modifié, ça.
Alors, il y a un centre gay et lesbien qui s'appelle Homo Edu, qui déplore que l'homosexualité ne soit pas intégrée dans les programmes d'études, car, disent-ils, c'est une grande partie à l'école que se crée le savoir et que se défont les préjugés, bref, que circule l'information susceptible de donner enfin un visage positif et humain à l'homosexualité.
Ça a l'air d'une blague, hein.
Ça a l'air d'une blague.
Ça a vraiment l'air d'une blague, ils vont un peu fort.
Alors elle cite un rappeur qui dit des horreurs sur les homosexuels, mais en précisant que c'est un rappeur blanc américain.
Ah bon ?
Qui s'appelle Eminem.
Blanc américain.
Là, je vous dis ce qui m'a un peu surpris au fil des pages. Il y en a à peu près une centaine de pages, mais je ne vais pas tout vous dire. Voilà, il y a Pierre Palmade, en plus, qui a évoqué sa sexualité à la télé. Monsieur Delanoë, qui a gagné dans les marchés de Paris, je vous signale le surnom de Notre-Dame de Paris.
Oui, c'est assez touchant.
C'est assez touchant. C'est quand même une bonne méchanceté. Oui. Ah oui. Aussi, faute de pouvoir vous référer à tous ces adultes qui serviraient pourtant de modèles positifs et structurants, la tentation est grande d'imiter le comportement des homos les plus visibles, seuls modèles à votre disposition, grands efféminés, folles, travestis, etc., qui ne correspondent pas nécessairement à votre caractère. Ou de se dire, non, je ne peux pas être homo car je ne suis pas comme eux. Puisque les modèles adultes ne viennent pas spontanément à vous, allez donc les chercher. Soit en partant à la rencontre de personnes dont vous connaissez l'homosexualité, des voisins, un ami dans un club de sport, etc. Soit en prenant contact avec des associations d'homosexuels, voire chapitre suivant, qui sauront vous faire partager leur expérience. Alors c'est du prosélytisme. Et à force de tourner, de retourner toutes les idées qui vous passent par la tête, vous allez devenir dingue. Le dialogue avec soi-même a ses limites.
Très bien ça, c'est bien vu ça.
Bon alors, on arrive à... Alors il ne faut pas avoir envie de mourir, parce qu'il y a beaucoup d'ados qui se laissent aller au suicide.
Dommage.
C'est pas bien ça, non.
Bon, alors j'en arrive à... Ah oui, alors on grandit tous avec le projet de vivre en couple et de fonder une famille. C'est ce que nous répète inlassablement l'école, les parents, la société en général. Mais attention, si vous choisissez d'être un homo, vous allez en ressentir comme un deuil de cette vie que vous n'aurez pas. Et comme pour toutes les pertes, il y a un travail de deuil à faire.
Alors tu sais que le terme travail de deuil est freudien. C'est Freud qui a inventé ça, parce que la peine qu'on éprouve à la perte de quelqu'un de cher, comme il n'y a pas de relation entre les troubles qu'on peut ressentir et vraiment l'affection profonde, et comme les péchés ne sont pas des péchés, ce sont des maladies, eh bien la douleur, c'est une maladie aussi, on va la soigner. Et c'est pourquoi Freud a inventé ce terme, il faut faire un travail de deuil.
Ah oui, et maintenant on dit gérer son deuil.
Ils ont repris tout le temps, et alors on fait son deuil. Ce qui fait que les victimes, par exemple, enfin qui ont quelqu'un de proche qui a subi, qui est mort, eh bien, ne peuvent faire leur deuil que si le présumé coupable est châtié. C'est très extraordinaire. Alors, dans Freud, il y a un amalgame extraordinairement précis entre la jouissance de la vengeance et le soin que ça apporte à la douleur. C'est tout à fait étonnant. Or, évidemment, comme c'est quelque chose de très dangereux pour la mentalité occidentale qui est chrétienne, eh bien, tous les médias ont repris ça et on ne vous parle que de travail de douleur. On fait un travail de douleur.
D'ailleurs, bon, alors là, il faut pas le faire à propos des...
On envoie un psychologue. Il faut pas le faire à propos de ça.
Non. Alors, en revanche, on a intérêt à rentrer en communication avec des gays ou des lesbiennes.
Oui.
Alors pour ça, il faut se dire que il y a partout de quoi en connaître et bavarder avec eux. Alors, il y a en France 1, 2, 3, 4, 5 sites sur le web.
Oui.
Il y a dont un suisse. Et grâce à ça, on peut bavarder avec des gens. Alors, par exemple, quelques adresses. Alors, il y a les adresses, il y a les numéros de téléphone, il y a les numéros du web.
Non, mais écoutez bien, il faut.
Alors, attendez, c'est quoi ? Il y a le centre gay et lesbien de Paris.
Il faut pas leur faire trop de publicité, quand même, je pense. Hein ? Je pense qu'il faut pas leur faire trop de publicité.
Non, mais je vais pas donner les numéros, ne vous inquiétez pas. Mais il faut quand même savoir qu'il y a le centre gay et lesbien de Paris qui conditionne pas mal de choses. Par eux, on peut avoir les adresses de 65. Alors, le centre héberge aussi une foule d'associations. Il y a les gays et lesbiennes juifs. Il y a les parents homo. Il y a les gays et lesbiennes sourds. C'est assez incroyable. Alors, il y a les enfants. Ah oui, dans toutes les villes de France, il y a une maison des gays. Alors, il y a les enfants terribles de Caen, les forums gays et lesbiens de Lyon, la maison des homosexualités de Touraine, etc. Parce qu'ils peuvent vous aider. Alors, c'est là, moi, que je suis quand même un peu choqué. Il y a aussi le MAG, Mouvement d'affirmation des jeunes gays et lesbiens, issu du mouvement adolescent gay créé en 1985. Depuis 1999, le MAG est agréé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, signe que les mentalités changent. Alors là, on peut rencontrer ça permet aux homos âgés de 16 à 26 ans de se rencontrer et de partager ensemble du temps, des idées, des activités variées, etc.
Activité variée me semble une litote.
Ensuite, on nous explique comment faire son coming out, comme on dit en français. Attendez. Et puis alors, d'essayer de se débrouiller avec les parents. Parce que cette dame, Anne Wessmann, dit quand même qu'il y a quand même de temps en temps un problème avec les parents. Alors, il suffit, dit-elle, de laisser traîner une revue à la maison. Qui s'occupe
négligemment.
Pour qu'ils comprennent à qui ils ont affaire.
Voilà. Je t'arrête une seconde, Geneviève. Un auditeur se félicite, je suis content que Mme Dorman s'occupe de ceux qui nous apportent des orages.
Ah, ben c'est gentil ça.
N'est-ce pas, c'est gentil.
Quand je fume plus, je tousse.
Alors, merci à l'émission. On vient de créer la semaine dernière. Sur le réseau câblé, une nouvelle chaîne qui s'appelle Pink TV, qui a été inaugurée au cours d'une grande fête présidée par la fille de M. Chirac. Je me borne, je n'ai pas pu vérifier. Voilà, et alors je signale un auditeur qui nous demande ce que signifie l'expression « Valence-Nolence ». C'est volance, je suppose, et ça ne s'écrit pas tout à fait comme ça. Ben, c'est degré ou de force, c'est que vous le vouliez ou non, quoi, volance-nolence, quoi. C'est à peu près comme ça on pourrait le traduire, je crois, degré ou de force. Voilà. Geneviève, tu as la parole.
Bon, alors, il y a un chapitre ensuite qui s'appelle la drague, alors qui explique que fréquenter le milieu gay et lesbien,
quand même.
C'est aussi ouais. Draguer ou se faire draguer en poussant la porte de certains cafés, clubs et boîtes de nuit. L'expérience peut vous tenter, vous permettre effectivement de faire des rencontres. En effet, une partie de la clientèle n'a parfois qu'un seul but, trouver un ou une partenaire pour la nuit. ces hommes draguent sans détour. Certains se montrent même particulièrement avides de jeunes gens qu'ils pourront mieux initier au plaisir de l'amour. Sans céder à la panique, il faut savoir que ces pratiques existent et il est important de s'en méfier. Donc c'est quand même des fausses mises en garde, hein. Il faut également s'aventurer avec prudence dans des lieux publics, parcs, jardins, où certains gays se donnent rendez-vous, flirtent ouvertement, ont même parfois des rapports sexuels à la va-vite, dans les buissons, dans les toilettes publiques. Enfin, pourquoi leur dire ça ? On leur indique les endroits.
Exactement.
Mais
c'est un livre de prosélytisme, visiblement.
Exactement.
Hein,
exactement.
C'est un vif encouragement. Il n'y a guère plus que les prêtres qui font plus de prosélytisme.
Ouais. Alors après il y a quelques façons pratiques d'agir. Alors on explique quand même, il y a quand même un chapitre de protection du sida, contre le sida. Ça ce qui est encore ce qu'il y a de moins. Mais alors on explique bon que il faut, quand on achète un préservatif, il faut que ce soit bien la marque NF. Alors là c'est un truc de mode comme on en voit dans les journaux.
À ce moment, on est ringard, si on n'a pas la bonne marque.
Choisir selon ses goûts, avec ou sans réservoir à l'extrémité bout, avec ou sans petite papule sur le dessus.
C'est incroyable.
Mais attention, on ne met pas un préservatif sur un sexe mou ou à moitié dur.
Ça, c'est à peine incroyable. À peine incroyable.
Voilà. Et c'est dans un encadré en couleur, etc. Voilà.
Bon. Et c'est distribué à l'Éducation nationale.
Moi, ça m'agace parce que j'ai des enfants. J'ai autour de moi des gens qui ont des enfants. Et pour moi, le plus grand malheur du monde, c'est ce qu'on voit partout dans les journaux en ce moment, un enfant qui disparaît. Et dans l'attente, on ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant. Enfin, je me mets à la place des mères, c'est ce qu'on peut éprouver de plus épouvantable. Et on voit dans les journaux, le sous-préfet téléchargeait des vidéos pédophiles. C'est là qu'ils vont faire leur marché. Les gens qui emmènent les enfants, les pédophiles qui après se rendant compte qu'ils ont fait quelque chose de pas très légal, les font disparaître.
Bon. Oh, mais non.
Alors, il y a récemment, avant-hier, dans le Parisien, il y avait un article expliquant qu'on trouve maintenant un objet qui permet de verrouiller les télévisions quand les parents sont pas là. Parce qu'il faut bien se dire une chose, je suis pas sûr que tous les parents le savent, tous les enfants savent maintenant manœuvrer le web.
Oui, c'est une évidence.
Ils savent tous avoir accès à ce qu'explique ce livre. Et les parents sont pas toujours à la maison. Et les enfants sont curieux, du moins les plus intelligents. Et donc, par simple curiosité enfantine, ils auront envie de voir ce que c'est que ces gens et de discuter avec eux. Et puis d'avoir la curiosité d'aller les voir, etc. C'est quand même assez inquiétant. Et j'ai vu dans ce magasin de livres pour la jeunesse à côté de l'hôtel Lutetia, ça bombille de parents et de parents très chics, de parents très bourgeois, de parents qui viennent acheter puisqu'on leur dit dans leurs journaux, dans leur
ils lisent pas toujours les livres qu'ils donnent à leurs enfants aussi.
Très non bien, mais
c'est ça qui est important. Ah, non, ils ne lisent pas, ils suivent des recommandations de journaux et ils ne lisent pas. Moi j'ai lu dernièrement chez des gens charmants qui ont des petites filles adorables, des bandes dessinées. Je leur ai dit, vous avez lu ce qu'il y a dans cette bande dessinée, et c'était vraiment pas brillant, que ce soit d'ailleurs d'une sorte ou d'une autre. Non, c'était pas ça. C'est un livre dont on a parlé récemment, d'ailleurs, dans les médias pour les bandes dessinées. C'est quand même pas à mettre dans les mains d'enfants de 10 ans.
Ouais. C'est les mêmes personnes qui après vont aller pleurer parce qu'il y a des pédophiles, parce qu'il y a des enfants qui sont...
Oui, ou puis même seulement des violeurs aussi. Il n'y a pas que les pédophiles, il y a les violeurs qui font disparaître les petites filles parce qu'ils ne veulent pas être reconnus après, qu'ils les tuent.
Il n'y a pas
que les pédophiles.
Le père Daniel Ange a dit des choses très justes là-dessus en disant qu'il y a la pornographie qui est la théorie et la pédophilie qui est la pratique.
Exactement.
Et on s'aperçoit que dans toutes les études américaines et tout qui sont les sujets-là, disent que 100% des gens qui sont des détraqués sexuels en prison sont des praticiens on sont passés par ces choses-là. Et la chaîne de télévision dont parlait le monsieur dans son intervention, là, Pink TV, c'est une chaîne qui va passer des films de pornographiques homosexuels.
C'est ça.
Et oui, qui est
sur toutes les chaînes. On est dans un délire absolu, là.
Oui, puis il n'y a pas que pour les pédophiles, il y a pour les violeurs, ce qui est aussi la mode. À force de donner des films porno, ça les excite et après, ils s'attaquent.
Ça les détraque, surtout.
Oui, c'est ça.
L'homme est fragile.
Et ça, c'est dangereux d'un côté comme de l'autre.
Le piège épouvantable, c'est toujours freudien, c'est de dire, au fond, c'est une façon de se décharger de ses pulsions, et on le fait de façon imaginaire, donc ça évite de passer à l'acte, ce qui est un non-sens.
C'est plus pervers que ça.
C'est tout le contraire.
Parce que là, il y a vraiment un appel.
Là, on voit ce que
c'est
annoncé.
Ce qui est très triste, c'est qu'à un moment, il y avait eu un très grand espoir quand Dominique Baudis, patron du CSA, avait pris le truc à bras-le-corps et il avait dit qu'il faut interdire ou limiter au maximum tout ce qui est pornographique à la télévision.
Il l'a payé chèrement.
Il l'a payé très très cher.
Vous voyez comment il l'a liquidé.
C'est incroyable. Et maintenant, il n'ose plus ouvrir le bec. C'était un mouvement qui était prêt d'aboutir et tout d'un coup, ça a été détruit.
Non, mais en plus, quand elle cite les gens célèbres, parce que les enfants sont comme ça, ils aiment bien les idoles et tout ça, je vois pas pourquoi elle aurait pas cité le maréchal Lyautey.
Pourquoi pas, bien sûr. Ça ne signifie strictement rien. Attendez que si tous les homosexuels avaient le talent d'Oscar Wilde, je changerais peut-être d'avis.
Ou de Michel-Ange, ou de Léonard de Vinci.
Le maréchal Lyautey, que je sache, n'a jamais fait son outing.
Mais non, bien sûr.
Et on l'imagine pas dans une gay pride.
C'est évident, enfin. Vous avez tous lu la nuit que Socrate a passé avec Alcibiade. Il avait fait ça justement pour se rendre compte et pour le mettre à l'épreuve. Et ben, Alcibiade était tellement furieux le lendemain qu'il faut bien imaginer que Socrate n'était pas intéressé par ce genre de choses. Comme on vous raconte que Socrate était homosexuel, c'est vraisemblablement pas vrai. Platon, c'est autre chose, je ne connais pas.
Non, mais moi, j'ai rien contre les homosexuels, mais je ne veux pas qu'on touche aux enfants.
Absolument, c'est ça qui est le plus grave,
Non, parce que je ne crois pas à l'innocence des enfants non plus. Parce que moi, j'ai des amis qui sont homosexuels et qui m'ont dit qu'à 8-9 ans, ils avaient déjà... ils géraient pas leur deuil de ne pas être le père de famille.
Hein. Oui, bien sûr.
Non, ça n'existe pas, l'innocence des enfants. Mais on peut être trompé quand on est un enfant parce que on croit vouloir se renseigner, puis par curiosité, on s'aventure dans des endroits qui...
C'est tout à fait
absolument, c'est ça qui est... C'est le prosélytisme qui est tout à fait déplaisant. Que des enfants soient comme ça, bon, il y en a, c'est sûr, c'est reconnu, c'est vu, mais c'est pas une raison pour faire du prosélytisme et emmener ceux qui ne le font pas dans cette direction.
Si elle n'avait pas donné les numéros, ça aurait été moins grave.
Là, normalement, dans une société républicaine comme celle qui existait il y a 40 ans seulement... L'auteur a été poursuivi pour incitation à la débauche.
C'est ça, ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle on a fait changer d'avis les gens. J'ai un ami qui était directeur général d'Eurotunnel, et qui, au moment où ils ont lancé le tunnel sous la Manche, catastrophe, on fait des sondages, on s'aperçoit que c'est pas populaire. Deux Français sur trois sont contre l'idée de percer un tunnel sous la Manche. Alors ils se disent, c'est embêtant pour faire ça. Et finalement, on lui a dit, mais vous inquiétez pas, on fait une petite campagne médiatique, et on va retourner ça.
Et
trois mois après, la campagne médiatique terminée, deux Français sur trois étaient d'accord.
La publicité...
Les gens sont manipulables. Et donc là, on s'aperçoit qu'un truc qui a été condamné de tout temps pour toujours, dans toutes les époques et dans toutes les civilisations sérieuses, ça devient... On voit plus le bien et le mal. En 30 ans, on a fait changer complètement la notion du bien et du mal, ce qui est une aberration.
Dans les chaînes de télévision, il y a une chaîne qui était pour enfants, et entre les films pour enfants, on passait des publicités tout à fait désagréables. Et je crois qu'ils ont réagi aussi à ça aussi.
Contrairement à ce que vous nous laissez entendre, nous manquons complètement d'informations. Nous sommes absolument rassasiés de conformation. On nous conforme, mais on ne nous informe pas. Tout le drame est là. Alors quand en effet, comme vous le dites très bien, une campagne est faite pour retourner l'opinion, on peut la retourner de la façon qu'on veut. Et la démocratie, on le sait, s'accommode très bien de ce système. Lorsque les élections réussissent, par exemple comme celles qui viennent de se passer en Moyen-Orient, eh bien les vrais démocrates vous disent « Alors maintenant, on va en faire d'autres, plus sérieuses. » Parce que quand l'élection n'est pas absolument conforme à leurs projets, à leurs propos, c'est qu'elle n'a pas été bien faite. C'est tout à fait étonnant. Et là, vous voyez ça presque à toutes les fois. D'ailleurs, on les recommence. Quelquefois, peut-être à bon escient, je ne suis pas au courant, mais enfin, les élections qui sont passées en Ukraine, c'était peut-être à bon escient. Mais enfin.
Il semblerait.
Ça met en doute la valeur, justement, de ce suffrage qui est une espèce de sacrement qui est vénéré par une grande partie des hommes qui sont abusés par une conformation et pour un ministère de propagande, somme toute. Nous n'avons que de la propagande, nous n'avons jamais une information objective, ne veut rien dire, mais une information simplement d'une autre tendance.
Non, puis en plus, moi je voulais mettre les parents en leur rappeler une chose, c'est que leurs enfants sont souvent autres que ceux qu'ils imaginent.
Ça, c'est certain.
Bon, et moi, je connais une dame qui a trois enfants et qui, un jour, s'aperçoit que ses communications téléphoniques avaient triplé par rapport à sa dernière facture. Alors, elle va au centre enfin, disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et on leur dit, écoutez, madame, on va regarder votre compte. Mais bon, on regarde le compte et on lui dit, mais non, il n'y a pas d'erreur. Mais alors comment se fait-elle, dit-elle. On dit, mais madame, vous avez un mari, vous avez des enfants. Elle dit oui, et vous devriez voir de ce côté-là. Et le mari, qui était là rarement, non. Et on a fini par s'apercevoir, elle avait deux fils et une fille qui devait avoir 13 ou 14 ans, que c'était elle qui, sachant manipuler tous les trucs, entrer en communication avec des gens en Asie, partout dans le monde.
Ça se fait couramment, hélas.
Ça se fait couramment, oui. Ça se fait couramment et ça va poser des problèmes tout à fait nouveaux.
Oui, d'où les clés qu'on recommande maintenant pour les parents, pour bloquer ça quand ils ne sont pas là. Il y a des parents qui rentrent après les enfants de l'école et qui... Et qui sont pas là. Bon ben.
Et puis il y a Internet, on a tout ce qu'on veut sur Internet.
Et puis ils savent, moi j'ai des petits enfants qui savent très bien.
Ah ben mieux que nous, hein, ils savent s'en servir que nous. Et même sans le vouloir, ils tombent sur ces sites-là.
Oui,
c'est ça qui est dramatique.
Ils sont nés avec cette optique et cette société.
Ah, puis ils ont pris la ville.
Oui,
il faut dire qu'il y a des choses extraordinaires, comme toute œuvre humaine, il y a des choses très positives et des choses négatives quand on scoute tout ce qu'inventent les hommes et à double tranchant.
Les choses dangereuses ont toujours existé, c'est pas
ça. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'il faudrait que les parents aient plus de temps et puissent voir ce que lisent leurs enfants, ce qu'ils écoutent et en parler avec eux. Mais malheureusement, ils n'ont pas le temps.
La littérature qui est imposée à l'éducation dans les grandes sociétés totalitaires, comme en Russie ou en Allemagne, c'est des livres comme ça étaient tout à fait possibles. Et en effet, lorsque des sociétés absolument totalitaires ont décidé d'imposer, non plus avec de l'information, mais avec un ministère de la déformation, ils ont imposé des choses aussi effrayantes, notamment en ce qui concerne, alors au contraire, le fait que les homosexuels sont la source de tous les maux, autre chose totalement.
Oh là,
totalement
faux.
C'est pas du tout.
Pas du tout. Mais je te dis justement que ce sont des arguments qu'employaient les totalitaires pour déformer leur jeunesse, et ils sont des livres qu'ils imposaient, on en a, et qui sont tout à fait évidents, de même, naturellement, à toutes les haines raciales ou catégorielles que vous pouvez penser.
Regardez le genre de dessin qu'il y a là-dedans.
C'est très parlant.
C'est effrayant.
Non, et puis en plus, c'est une belle édition, c'est ça qui est terrible. Hein. C'est joli comme livre, quand on le voit extérieurement. C'est du beau papier.
Jusque-là, je pensais.
Comment est-ce qu'on met des choses en rythme?
C'était réservé aux pichetières.
Ah, je sais, excuse-moi, j'ai jamais fait
Non, mais je ne te dis pas, justement, je t'informe. Eh bien, généralement, pour trouver ces choses-là, on savait où s'adresser, mais pas spécialement dans des beaux ouvrages brochés.
Mais regardez,
du beau papier glacé. Non, j'ai jamais vu Titeuf.
Titeuf, ça se vend.
Ça se vend à des
millions d'exemplaires.
Oui, mais il paraît que c'est un des plus.
Regarde ça dans une librairie, tu seras épouvanté parce que les enfants qui dessinent ont l'air de petits vieux.
Ah oui, si, oui.
C'est effrayant.
Oui,
c'est terriblement misogyne. Oui. Je comprends pas pourquoi ça échappe aux...
Oui, aux féministes.
C'est vrai, quand on écoute tout ça, c'est vrai que moi, quand je vous écoutais, je me disais, mais en fait, on est en face d'un tsunami, là, on a l'impression de rien pouvoir faire, que ça avance, et qu'on sait pas où ça va s'arrêter. Et puis, c'est vrai qu'on est submergé par des tas de choses, quoi. Et j'avais un prêtre un jour qui m'a fait une réflexion qui était pas mal. Il disait on a plein d'infos, mais en fait elles nous touchent pas tellement, elles nous font pas changer notre vie. Et il y a des on reçoit le journal de 20h tous les jours et puis on voit des trucs en quantité, c'est énorme, mais en ce que ça touche au profond, c'est pas grand-chose. Et puis tout d'un coup, on va voir la passion de Mel Gibson par exemple, ou un truc comme ça.
Ouais, c'est super.
Et un truc qui parle à autre chose et qui va chercher beaucoup plus profond et qui sur un seul, alors en pourcentage, c'est 1 pour 1000 de ce qu'on a vu. Mais dans l'influence que ça a sur notre vie, ça a été tellement un cristal, quelque chose de pur et de beau et d'élevé, que paf, on accroche à ça alors qu'on n'a pas accroché à tout le reste. Donc faut pas non plus désespérer.
Vous avez raison, c'est un signe considérable. Qu'il y a eu des gens, un public nombreux pour voir la passion, c'est un grand signe d'espoir.
C'est extraordinaire.
Oui, il y a quand même des bonnes réactions. Vous parliez tout à l'heure des élections en Irak. Les gens, on les menaçait de mort. Ils ont voté quand même. C'est un grand courage. Et aussi parce qu'ils méprisent assez la mort dans ces pays-là. Ça, c'est évident.
Oui, enfin,
ils ont quand même.
Oui,
bon, ils ont quel âge, vos enfants?
Non, ils ont donné.
Ils ont entre 2 et 8 ans. Il y en a 5.
D'aspiration à une certaine liberté. Quand la liberté devient ça, ça devient
un drame. Ça serait un drame.
Mais ça, c'est quelque chose humaine. Est ainsi faite.
Nous, on pense que le remède principal, c'est de se confier tout à la Sainte Vierge et puis de...
Oui, mais quelquefois, la Sainte Vierge est occupée ailleurs.
Ah, pas tant que ça, pas tant que ça. Voilà. Croyez pas.
Elle a un secrétariat très bien.
Elle est très, très organisée.
Très bien.
Je dis ça parce que vous aimez les femmes.
Elle n'a rien caché.
Ouais.
Daniel Fuchs, vous avez entendu cette indignation de si bonne aloi de Geneviève Dorman devant ce qui n'est pas une question d'être choqué moralement. La question est d'un danger réel, beaucoup plus grave au fond que la cigarette, dont on nous rebat les oreilles, peut-être même que l'alcoolisme. C'est quelque chose qui détruit les êtres, qui détruit les amours entre les êtres.
Non, mais surtout qui risque de les faire tuer.
Et qui risque aussi de les faire tuer.
Oui, c'est bien, c'est là-dessus.
Il y a juste là.
Là-dessus qu'il faut se baser.
Je trouve que c'est le bon sens qui manque.
Je sais pas ce que c'est que le NF, des préservatifs.
NF, ça veut dire
Norme
française.
Nouvelle France.
Norme française, oui, ça garantit, paraît-il.
C'est-à-dire que ça doit être garanti par le gouvernement d'efficacité.
Ils
ne sont pas fabriqués en Chine, ils sont
tous solides. J'ai pas fait l'apologie des capotes.
Enfin,
Alors voilà un auditeur qui nous dit: nous en avons assez de tous ces mensonges propagés pour les destructions de l'humanité. La pédérastie à l'état pur est rare, pour ne pas dire quasiment inexistante. C'est l'auditeur qui nous donne ces informations.
Enfin, on parle bien du tourisme sexuel dans les pays asiatiques. Il y a bien des gens qui le pratiquent et qui...
Je pense que ça a été toujours pratiqué, mais peut-être
pas au niveau... C'était plus discret, en tout cas.
Voilà, une auditrice... Et qui est heureuse et qui rend hommage à cette émission. Je vous remercie, madame, je suis très sensible. Connaissez-vous le peintre Alessandro Papetti, influencé très visiblement par Giacometti? Non, je ne connais pas, c'est un auditeur. Il faut être... Ah, c'est difficile. Je suis parent handicapé, je suis offusqué... Je peux difficilement lire.
Fais voir.
C'est un fax.
Il n'est pas homosexuel, c'est handicapé quand même.
Non, mais qu'il y ait des homosexuels, il ne faut pas leur taper dessus. Simplement, ce qu'on leur demande, c'est un peu de discrétion pas de prosélytisme qu'il y a dans ce livre. Ça, c'est vraiment. Ouais, c'est ça.
La gay pride, c'est
vraiment d'une laideur et d'une. Bon, il y a un certain nombre de gens qui sont homosexuels, disent, mais qui ne font pas de prosélytisme et qui ne vont pas à la gay pride. Voilà. C'est leur choix, c'est leur tendance.
Une auditrice me renseigne. Et je tiens compte tout à fait de son observation, parce qu'en effet, je n'ai pas dit le mal de Freud. J'ai dit que Freud avait inventé cette histoire du travail
de deuil,
parce que dans sa théorie, les affections humaines étaient toujours des maladies. Mais alors elle me renseigne, je n'avais pas tout à fait confiance, Freud considère l'homosexualité comme une maladie. Eh bien, je pense que Freud ne pourrait plus dire ça dans notre République française.
Non, mais de toute façon, ça reste un civilisateur.
Moi, je dirais une particularité.
Oui, exactement.
Parce que...
Freud
m'embête.
Oui, Freud
nous entend. De la nature.
Oui, c'est une. On sait très bien qu'en chacun de nous, il y a un peu de féminin et de masculin. Il y en a certains qui auront une tendance. Bon, mais c'est simplement ce qu'on demande, c'est de pas d'écrire des livres comme celui que vous avez montré.
Et vous savez ce que disait Clémenceau disait Clémenceau du maréchal Lyautey.
Oui.
Alors, il disait, il a des couilles au cul, mais ce sont rarement les siennes.
Oui,
il fut un.
C'était un hommage, quand même.
Ça a été un colonial qui a fait beaucoup moins de mal que d'autres. Il a fait des grandes choses, il respectait les. Et les Marocains le respectaient.
Mais si on analyse le mot d'esprit, il y a à la fois un hommage et puis quand même une petite.
Si vous voulez, nous allons prendre connaissance des messages des auditeurs qui sont tous dans le bon sens, enfin qui vont tous dans le même sens, qui sont extrêmement heureux de ces émissions. Ça me fait plaisir. Et je vois, par exemple, je ne sais pas si c'est une auditrice, le souvenir de notre propre enfance, celui d'une grande vigilance, etc. Enfin, elle, toi et le ciel t'aidera, elle est parfaitement en accord avec cette émission, et je remercie Madame Dorman. À propos de l'homosexualité, le professeur de Boisen disait qu'il les soignait, Freud dit la même chose. Eh bien, je veux bien, et c'est certainement l'attitude la plus vraie quand on voit le combat de Julien Green, par exemple, il avait vraiment l'impression, il donnait l'impression de faire une cure et de se soigner. Et il s'est débarrassé, en effet, de cette maladie.
Il y en a beaucoup qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Tous ceux qui, certains qui se sont mariés pensant pas que ça leur passerait, ça leur est pas passé. Donc ça prouve bien que c'est pas, que là c'est naturel.
Soyez gentils, ne parlez pas tous en même temps.
Ah.
Nous avons parlé en même temps. Enfin, le gentil ne doit pas s'adresser à nous, monsieur. Je suppose. Ou alors, c'est bon. Quelqu'un qui a pris trop au sérieux cette émission.
Oui.
Bonjour à vous. On est peiné de penser que les exécutifs, que Dieu vous garde, par conséquent, on peut dire que nous trouvons auprès de nos auditeurs une sorte de réconfort et en tout cas de soulagement que leur a apporté la communication de Mme Dorman et également vos communications à vous qui montrent bien que nous répondons sans du tout polémiquer, que nous répondons à un danger très grave.
Ah oui.
Comme tu l'as parfaitement dit, c'est non seulement c'est les enfants qui peuvent tomber malades de cette maladie, mais également mourir, puisque ceux qui leur inoculent cette maladie peuvent aussi.
Non, mais c'est pas le fait de pédé qui est grave.
Non,
c'est le fait d'être entraîné par des pédophiles.
Exactement.
Qui vont vous tordre le kiki pour.
C'est le prosélytisme sous ces formes que vous avez lues dans ce livre qui sont vraiment tout à fait déplaisantes.
Alors là, je réponds à monsieur, je ne dis pas son nom par discrétion. Objet de référence, Radio Gay. Nous avons l'impression d'écouter Radio Gay. Nos propos n'étaient pas très gays, je crois. Si c'est pour réjouir les gens, je crois que c'est tout à fait manqué. Vous vous interrogez, pourquoi leur dit-on tout ça, ces obscénités dans les livres? Mais pourquoi nous dites-vous tout ça? Parce que
bande d'imbéciles.
Je ne sais pas, moi, il me semble que de signaler un danger n'a jamais été de participer à l'assassinat. Enfin, il faut tout de même se rendre compte.
C'est sûr que c'est un problème de savoir. Il faut le dénoncer, mais il ne faut pas non plus leur faire de la publicité.
Parce que quand on est une femme.
Vous avez raison, mais je crois que là, ils n'ont pas eu de publicité aujourd'hui.
Quand on est une femme, l'enfer, c'est un enfant qui ne rentre pas de l'école.
Oui, il me dit très bien, c'est ça l'essentiel.
Mais que ce soit une fille ou un garçon.
Bah évidemment.
C'est ça l'essentiel. Et ceux qui.
Il y a autant de dégâts avec les sites internet sur les petites filles que sur les petits garçons.
Exactement.
Non, mais on explique cela par une mise en garde.
Voilà.
Ça me paraît très important qu'il y ait quand même une opinion.
Si on ne le dit pas, si on tait toute chose, eh bien, il n'y a plus à s'étonner ensuite que tout s'en va et que tout parte. Merci beaucoup, madame. Encore. Est-ce que vous avez l'intention d'aborder dans une prochaine émission le phénomène Da Vinci, tout de suite, monsieur, je vais le dire, très bonne émission. Le Figaro, devenu un journal de gauche, publie des informations et autres qui ne peuvent que déstabiliser ses lecteurs. C'est l'opinion de cette dame qui nous écrit et je m'empresse de le communiquer. Je vais répondre à différents auditeurs, si vous voulez bien, et au courrier qu'on m'a donné. Oui, mais est-ce qu'il est bien utile de donner le titre de ce livre ? Est-ce que tu crois ?
On te le demande, c'est à toi de le dire.
On me le demande. Vous avez voulu le titre. Bon, eh bien, ça s'appelle « L'homosexualité à l'adolescence » par Anne Westman, à partir de 13 ans, c'est édité à la Martinière Jeunesse.
Jeunesse. Donc c'est adressé aux jeunes.
Non, c'est incroyable. C'est incroyable, ça, quand même. C'est très
dans notre... c'est tout à fait étonnant. Alors, je signale qu'une pièce de... Enfin, une mise en scène de Michel de Maulne avec un texte Judith de Claude-Henri Roquet, du 13 janvier au 20 février, le mercredi et samedi à 19h, jeudi et vendredi à 20h30, dimanche à 17h dans la salle L'Autre et Amont. Renseignements et location 01 44 54 53 00. J'ai l'intention d'ailleurs de prier l'auteur, s'il en a la possibilité, de venir à ce micro pour parler de ce spectacle qui me semble très différent du livre que nous venons d'évoquer. Alors me fait signe que j'ai assez ennuyé tout le monde avec mon bavardage. Eh bien, j'espère que vous serez nombreux à la prochaine émission qui a lieu dans 15 jours. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là.